Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Chaque matin à la radio, c'est toujours le même constat. Ukraine, Moyen-Orient, mer de Chine, le monde semble pris dans une spirale de tensions. Et au cœur de ces crises, un mot revient sans cesse, diplomatie. En 2025, elle est plus que jamais sous pression. Alors pour mieux comprendre ce qu'elle est devenue, nous avons eu envie de prendre un peu de hauteur et de recul dans le temps. Dans cet épisode de l'Envie de savoir, nous remontons aux origines de la diplomatie moderne, comment est-elle née, qui étaient les premiers ambassadeurs et surtout à quoi servait-il vraiment. Pour y répondre, il nous fallait trouver un historien spécialiste de la diplomatie des temps modernes et nous l'avons trouvé à l'Académie des sciences morales et politiques. Lucien Belli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire moderne à la Sorbonne et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. On peut mentionner par exemple l'art de la paix en Europe, naissance de la diplomatie moderne, 16e, 18e siècle. On va tenter de comprendre avec vous comment la diplomatie est passée d'un outil compensant la faiblesse des États à une véritable arme de puissance. Merci beaucoup d'être dans notre studio. Alors, ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, diplomatie, existe depuis la nuit des temps. Mais on peut dire qu'il y a eu un tournant à la période moderne dont vous, vous êtes spécialiste. Qu'est-ce qui se passe au XVIe siècle en Europe pour qu'on parle d'organisation nouvelle de la diplomatie ?
Le mot diplomate et le mot diplomatie apparaissent très tardivement. Et c'est intéressant de le souligner. Cela apparaît à la fin du XVIIIe siècle et en particulier au moment de la Révolution. Auparavant, les hommes n'avaient pas vraiment trouvé de notion regroupant finalement des missions très variées. Alors, il y avait le mot ambassadeur. Le mot ambassadeur vient de loin. Il est avéré dès le Moyen-Âge, sans doute dès le XIIe siècle. C'est un mot qui permet de désigner un envoyé officiel d'un État, d'un prince, d'une cité, qui parle au nom de cette cité ou de ce prince dans un pays étranger. C'est un peu une mission extraordinaire, une mission spéciale. Mais avec le temps, l'idée s'est imposée qu'il fallait développer ce travail continue en quelque sorte, de représentation et qui s'associait souvent au désir d'être informé, même à une forme d'espionnage, et puis à la mission de négociation. On peut dire dès maintenant que la diplomatie a deux visages finalement. Il y a la volonté de préparer la guerre finalement, de préparer un conflit, et cela, les diplomates se mobilisent, et puis il y a également la volonté d'apaiser les tensions, de finir les guerres, et c'est une vision plus solaire de la diplomatie.
Vous, dans votre livre, vous parlez d'art de la paix. C'est un art.
On peut dire que progressivement, la diplomatie, l'art de négocier, le travail des négociateurs a fait l'objet d'une réflexion théorique, avec des ouvrages dès le Moyen-Âge, mais surtout en France, par exemple, à partir du XVIe siècle et surtout au XVIIe siècle, on voit bien qu'il y a, à côté de la réflexion sur la politique, Machiavel, Hobbes, il y a une réflexion sur la façon d'organiser un dialogue entre les pouvoirs, entre les puissances. Vous voyez, j'emploie le mot puissance, ça peut désigner aussi bien une petite ville, une cité-État, ou une grosse ville comme Venise ou Gênes. Tout cela a progressé en même temps que naissait et s'affirmait une certaine vision du monde politique, de l'organisation, surtout en Europe.
Avec l'affirmation des États-nations à cette époque-là.
On peut dire que, progressivement, c'est ce qui apparaît au XVIIe siècle. On a parlé souvent de système westphalien, c'est-à-dire un système d'États souverains qui ont des tailles variées, qui sont plus ou moins puissants, mais qui sont reconnus par la communauté internationale, qui sont reconnus par les autres. Et vous le voyez, c'est aussi progressivement une certaine vision qui s'est imposée. Finalement, il y avait un domaine très particulier qui était le domaine des affaires étrangères, les rapports du souverain français avec ses voisins ou avec des princes lointains. Il y a aussi cela, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ceux qui sont proches, qui ont des frontières communes, il y a aussi ceux qui sont beaucoup plus loin. Il faut réfléchir aux relations qu'on peut avoir avec eux. On peut dire que l'invention des affaires étrangères est un signe très intéressant d'une certaine vision du monde qui s'est imposée au XVIe et au XVIIe siècle et qui finalement reste, grosso modo, la vision que nous avons encore aujourd'hui. Finalement, ce sont les États représentés aux Nations Unies. Hein, et ils sont souverains et le respect de la souveraineté est une dimension très importante de la vie diplomatique.
On comprend bien que l'idée derrière, c'est que s'installe un dialogue permanent entre les États. Qui sont les artisans de cette négociation ? En Europe, vous avez parlé de princes, il y a aussi des intermédiaires, des ambassadeurs. Qui sont derrière ces négociations ?
C'est une question très importante. L'idée qui pouvait s'imposer, c'est que les princes eux-mêmes réglaient leurs affaires, se rencontraient. Il y a eu beaucoup de rencontres au sommet. C'était finalement une façon d'incarner les rapports entre des États, entre des communautés, entre des sociétés. Tout ça était possible, intéressant, utile. Mais il y avait des risques. Alors des risques qui étaient ceux d'un attentat, et il y en a eu. Et puis l'échec. Le camp du drap d'or, très, très, très connu, dans la rencontre entre Henri VIII d'Angleterre et François Ier, le roi de France, c'est un grand événement qui n'aboutit à rien. Et un roi peut-il échouer ? Progressivement, ce genre d'expérience a été écarté, et c'est fort. J'ai souvent souligné à quel point, quand il y a l'échec d'une négociation, on l'impute au négociateur. Quand il y a un succès, on l'attribue au chef de l'État. Et ça reste aujourd'hui très vrai. Donc, j'allais dire que le diplomate est condamné à toujours échouer, puisqu'il disparaît s'il réussit. Mais vous voyez, progressivement, cette idée s'est imposée qu'il fallait avoir
des intermédiaires.
Des intermédiaires, des représentants, l'idée de représentation. Et l'idée qui s'impose finalement, probablement en Italie, puis dans les pays européens, c'est qu'il est utile, en temps de paix, au moins d'avoir un réseau d'ambassadeurs, un
permanent.
Réseau permanent.
Alors, ce qui est nouveau, ça.
C'est nouveau. C'est pas si évident. Vous voyez, ça nous paraît tout à fait banal aujourd'hui. Nous avons un nombre d'ambassades très important. Ça nous paraît tout simple. Mais c'est vécu souvent comme un danger. Dans un pays, c'est un étranger puissant.
Il y a beaucoup de méfiance.
Voilà. C'est-à-dire, il peut être l'objet de sollicitations, il peut inspirer des résistances, il peut soutenir des oppositions, il peut organiser des conspirations. Et c'est vraiment une crainte qui reste très forte. Et on le voit bien, par exemple, Élisabeth Ière d'Angleterre, reine puissante avec une grande politique étrangère, a été l'objet elle-même souvent de complots où des ambassadeurs ne se gênaient pas pour s'impliquer en quelque sorte. Donc, vous voyez, il y a ce rapport très délicat avec cet étranger singulier qui porte en lui, symboliquement d'abord, et puis réellement, la puissance d'un autre pays. Et en même temps, pour un État, l'autre problème qui se posait, c'est que ça coûte cher. Entretenir des ambassades, envoyer un ambassadeur, ça coûte cher. Beaucoup de princes n'avaient pas envie et pas les moyens de se payer comme ça un réseau de représentants.
D'où l'intérêt de nommer des ambassadeurs qui sont riches.
Ah, ça, c'est une condition un peu du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. Ils sont indemnisés, mais il faut au moins qu'ils aient les reins solides financièrement.
Alors, on le comprend, un ambassadeur doit satisfaire un certain nombre de critères. C'est Jean Othman de Villiers qui a écrit un petit opuscule dans lequel il revient sur la pratique de la diplomatie et de ses bons usages. L'ambassadeur, rédigé en 1603, et dedans, il y explique les qualités d'un bon ambassadeur. Alors, quelles sont ses qualités ?
C'est passionnant parce que, vous le voyez derrière cette interrogation, qu'est-ce qui fait un parfait ambassadeur ? C'est aussi une réflexion sur la carrière politique, d'une certaine manière, avant la politique. Donc, on suppose qu'il ait des connaissances, mais alors pas trop. Ça ne doit pas être un savant, mais il doit avoir connaître un peu la géographie quand même. Mm-hmm. C'est important de savoir où sont les pays. Un peu d'histoire, c'est l'histoire des dynasties, c'est important. Avoir des connaissances en droit, parce que c'est les questions juridiques sont fondamentales dans toutes ces tensions ou ces affrontements politiques. Également, avoir un profil de cour. Beaucoup de ces pays ont des princes, donc il faut pouvoir parler à des princes.
Bien parler de l'éloquence, voilà. En fait.
Une forme d'éloquence, puis une forme de sang-froid, de flegme. Il ne faut pas être timide. Il faut aussi savoir rédiger, ça c'est fondamental. Alors bien sûr, il faut absolument rapporter en détail, avec beaucoup d'exactitude, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait. C'est un travail minutieux, et ça reste une des caractéristiques du travail travail diplomatique, c'est un travail d'écriture. Donc, il y a tout ce système de rédaction, un monde de secrétaires, également une réflexion sur la façon de garder le secret, les chiffres, le chiffrement. On envoie les lettres avec des chiffres, en réalité, c'est chiffré. Ce sont des successions de chiffres, et les diplomates ont une table de correspondance, et ça demande une journée, pratiquement, de déchiffrer une dépêche. Rousseau lui-même l'a fait, il a été secrétaire de l'ambassadeur, il dit que c'était pas très difficile, mais c'est quand même un travail, vous voyez, qui oblige à des précautions. Et finalement, souvent, c'est Caliat qui le dit, les meilleurs espions, c'est ceux qui s'infiltrent, en fait, dans l'entourage, soit d'un ambassadeur, soit d'un ministre, et qui regardent les dépêches avant qu'elles ne soient codées. Lui-même disait qu'un code était indéchiffrable. Si on prenait des précautions, il n'y avait pas possible vraiment de le briser. Donc, il y a tout ce travail-là. Il y aura un dernier, également un travail qui sera fondamental à la fin du XVIIe siècle, c'est garder ses papiers. C'est-à-dire que l'idée, tout papier diplomatique est un papier d'État.
Et alors, comment ça se passe sur place, dans les pays, entre guillemets, d'accueil? Les ambassadeurs, par exemple, dans quelle langue vont-ils négocier? Ils doivent parler plusieurs langues ou alors tout se passe en français?
Dans les qualités d'un ambassadeur, il y a indéniablement aussi l'idée qu'il puisse parler les langues, c'est l'idéal. En réalité, longtemps, il y a eu une langue de la négociation qui a été le latin, pour une partie. C'est resté très longtemps une langue pour l'Europe centrale. C'est une langue commode, c'est une langue savante, une langue morte que beaucoup connaissent par leurs études. C'est aussi une langue, je dirais, des élites. Le peuple n'apprend pas forcément le latin, donc ça permet d'introduire aussi un peu une distance, que le domestique ne lit pas forcément la lettre en latin. Donc ça reste longtemps un moyen de communiquer. Certains traités doivent être en latin, en particulier les traités avec l'empereur doivent être en latin jusqu'au début du XVIIIe siècle, c'est presque une règle. Mais progressivement, il y a eu le grand rôle de l'italien. Les Italiens sont très présents en Europe, donc il y a une langue italienne qui est largement parlée. Et puis, progressivement, au XVIIe siècle, le français s'impose comme langue diplomatique. Alors, c'est plutôt commode, c'est une commodité. Puisque tout le monde parle français, on écrit ou on parle en français pour les négociations.
Vous parliez tout à l'heure d'une vision de la diplomatie qui s'inscrit dans un temps long, vision qui s'exprime aussi à travers la signature de traités. On a survolé ce sujet-là, mais il y a une première date à retenir, 1648, qui est la signature du traité de Westphalie, qui met fin à plusieurs guerres en Europe. Cet accord marque aussi une rupture dans l'organisation de la diplomatie en Europe ?
Je pense qu'en effet, il y a eu une rupture, c'est-à-dire que la négociation était souvent bilatérale entre deux princes qui se faisaient la guerre et la guerre de 30 ans, qui était une guerre un peu générale, qui touchait bien sûr le Saint-Empire, donc notre Allemagne, l'Italie, qui voyait l'affrontement entre la France et l'Espagne aussi, et bien d'autres conflits périphériques. Eh bien, l'idée s'est imposée qu'il fallait régler un peu tout en même temps. Donc, cette réalité, cette idée vont s'imposer avec le temps, et on peut dire que ça va durer jusqu'au XXe siècle, avec le congrès de Versailles, c'est-à-dire qu'un grand conflit doit se terminer par une grande réunion de tous les belligérants. On met à plat, en quelque sorte, tous les conflits, toutes les sources de tensions. Mais néanmoins, en même temps, on attend le résultat des campagnes militaires. Alors, Westphalie s'est imposé parce qu'en gros, tous les princes de l'Allemagne, du Saint-Empire, ont eu la parole. C'est-à-dire qu'à un moment, l'empereur a reconnu qu'il n'était pas le seul à pouvoir parler au nom des Allemands. Ça a permis de définir cette notion de souveraineté sur laquelle nous avons déjà parler, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient engagés dans la guerre pouvaient avoir la parole, dire ce qu'ils voulaient, et le traité final, le traité entre l'empereur et la France, est un traité où l'on voit bien d'un côté la signature de Servien qui représente Louis XIV, et de l'autre côté une multitude de signatures qui représentent les délégués des princes allemands. Donc ce traité de Westphalie a permis finalement de clarifier cette sorte d'organisation horizontale.
C'est de ça dont on parle quand on parle de système westphalien.
C'est une organisation horizontale d'États souverains reconnus par les autres États souverains, où aucune autorité ne s'impose à eux, aucune autorité supérieure ne s'impose à eux, quelle que soit leur puissance. et cette souveraineté doit être respectée, ils doivent avoir la parole. Et c'est, vous voyez, c'est très subtil, c'est très complexe, on ne peut pas dire que ce soit le système actuel, pas du tout, mais disons que l'on entre dans cette perspective de princes souverains ou d'États souverains qui sont amenés tous à négocier lors de grandes crises. Ces congrès de paix vont marquer l'histoire. Regardez, quand on veut faire l'histoire de l'Europe, c'est souvent l'histoire des congrès de paix. Il y avait Svali, il y a eu le traité d'Utrecht, après le congrès de Vienne, Versailles pour le XXe siècle. Ce sont des bornes importantes, ce sont des dates européennes.
Quel nom de grand négociateur peut-on retenir au XVIIe, XVIIIe siècle en France? On n'a pas beaucoup parlé des femmes. Est-ce qu'il y en a?
Alors, la place des femmes, il y a finalement l'idée d'une ambassadrice. Est-ce qu'il peut y avoir une ambassadrice? Et il y a au XVIIIe siècle un ouvrage qui s'appelle « De l'ambassadrice ». Et en fait, traditionnellement, on considère qu'il n'y a qu'une ambassadrice au XVIIe siècle, enfin à l'époque moderne, c'est la maréchale de Guébriant. C'est un cas un peu singulier, c'est-à-dire qu'une princesse qui vivait en France, Louise-Marie de Gonzague, a épousé le roi de Pologne. Donc, il fallait l'accompagner en Pologne. Et selon la tradition de la Société des Princes, généralement, il fallait une princesse pour l'accompagner. La France n'en avait pas sous la main, ou n'a pas voulu prendre une princesse française. On était en pleine guerre. Et le maréchal de Guébriant avait été très important en Allemagne, avait été une figure importante en Allemagne, il était mort. Et on a pris sa veuve, qui était une femme de tête, qui est partie, qui a accompagné donc la reine de Pologne. Et on considère que c'est la première ambassadrice. Vous voyez, parce que justement, elle n'était pas princesse. Donc on a gonflé un peu son titre pour dire qu'on n'envoyait pas une princesse. Et le roi de Pologne a dit quoi, on n'envoie pas une princesse. On lui dit, vous envoie une ambassadrice.
Mais elle avait le titre officiel d'ambassadrice.
Oui, semble-t-il, oui. Donc c'est un modèle, vous voyez, rarissime. La première ambassadrice véritable, semble-t-il, c'est Alexandra Kollontai. Personne sur laquelle Hélène Carrère-Doncos a fait un de ses derniers livres. Donc, une grande figure de la Révolution russe qui a été une des premières à vraiment avoir le titre d'ambassadrice. Pour la France, vous savez, c'est dans les années 1960, c'est tardif. Vous voyez, c'est un long cheminement.
Alors, depuis quelques instants, on parle d'ambassadrice, d'ambassadeur. On ne parle pas de diplomate. À partir de quel moment on commence véritablement à parler de diplomate? Parce que c'est un anachronisme de parler de diplomatie à cette époque. Vous avez commencé l'émission en parlant de la Révolution française,
c'est
à ce moment-là?
Oui, c'est à peu près à ce moment-là. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'avait pas de mot simple et général, en quelque sorte. Alors, il y a l'ambassadeur. L'ambassadeur, c'est un peu celui qui a une mission publique que l'on voit. Il y a l'ambassadeur extraordinaire, alors c'est pour un grand événement, la réconciliation après une guerre. Ça existe aussi pour venir chercher une princesse pour un mariage. Voilà, c'est pas rien, il faut l'accompagner. Ça, on voit bien qu'il y a une diplomatie de la magnificence. Au temps de Louis XIV, finalement, plus personne ne fait vraiment attention à ces entrées d'ambassadeurs. Et le roi à Versailles les reçoit dans sa chambre. Il y a tout un cérémonial précis, et sans doute assez spectaculaire aussi. Mais vous voyez, ça n'intéresse plus personne. Ce qui intéresse à Versailles, c'est au contraire de recevoir des princes venus de loin, l'ambassade de Siam, l'ambassade du Maroc, l'ambassade de Perse, qui généralement sont même pas de vrais ambassadeurs, qui sont pas, alors eux sont pas toujours avec des habits somptueux, mais ça provoque l'intérêt. Il y a des foules énormes pour s'approcher de ces ambassadeurs venus de loin. Donc vous voyez, il y a aussi une organisation progressive de ces spectacles politique. Alors, ça, c'est l'ambassadeur.
Oui.
Et il y a l'ambassadeur, donc ambassadeur extraordinaire, ambassadeur ordinaire. Pour des princes moins importants, on a des envoyés, vous voyez, c'est un peu le niveau en dessous, quand on ne veut pas trop de face. Puis il y a de simples résidents qui restent sur place. Et pour la négociation, on disait un négociateur. Et s'il avait des pleins pouvoirs, on disait un plénipotentiaire. Dans les correspondances, par exemple, à Utrecht, on dit « messieurs les plénipotentiaires », vous voyez, c'est parce qu'ils ont une lettre qui leur permet de signer un traité. Ils ont les pleins pouvoirs de leur prince, ils peuvent signer un traité, et c'est important, vous voyez, d'une certaine manière, un plénipotentiaire qui peut signer a plus d'importance qu'un ambassadeur qui est là pour le décorum. Donc vous avez ces figures de négociateurs, et d'une certaine façon, moins elles se voient, mieux ça vaut. Alors, il y a eu des... Rubens, par exemple, le grand peintre Rubens, se
targuait
d'être, oui, un négociateur. Alors, je ne sais pas s'il est allé très loin dans ses négociations, mais il avait des missions, parce que, comme il peignait les rois, il pouvait leur parler...
Directement.
Vous voyez, directement. Donc, on considérait que c'était vraiment intéressant d'avoir un homme qui avait comme ça accès à des princes européens considérables et qui était respecté par eux parce qu'il faisait leur portrait. Donc, vous voyez, c'est des profils très, très divers.
Pour terminer, je voulais revenir sur la question que je vous avais posée juste avant sur l'apparition du terme diplomate, parce que ça correspond au tournant des Lumières.
Alors, on peut dire qu'au XVIIe siècle, les pratiques de la diplomatie moderne se mettent en place. L'organisation du travail, les instructions données aux ambassadeurs, les correspondances, les archives, les traités bien rédigés, conservés, ratifiés, l'organisation des réseaux diplomatiques. Et la naissance de cette figure de l'ambassadeur. Mais au XVIIIe siècle, comme souvent, ce système va susciter des critiques. Il y a donc l'idée qu'on doit revenir à une négociation simple, de peuple à peuple. Et finalement, c'est ce que les États-Unis vont essayer de mettre en place. Une négociation sans chichi. Et vous savez que c'est une tradition qui va rester très forte. Les Américains vont lancer l'idée que ces pratiques sont des pratiques aristocratiques de peuples dominants, enfin, ou de groupes dominants, que le secret des cabinets, c'est une façon de dominer la population, de lui cacher ce qu'on décide pour elle. Donc, vous voyez, vous avez toute une remise en cause. Et bizarrement, d'une certaine manière, la Révolution va reprendre un peu cette idée-là. C'est-à-dire que la Révolution va avoir deux idées. C'est-à-dire qu'il faut remplacer le secret des princes, le secret des cabinets ministériels, tout ce petit monde, par une diplomatie simple, transparente, qui fasse parler les intérêts du peuple. Mmh. Avec l'idée, la dernière, que la diplomatie, ce doit être une sorte d'arithmétique. On expose les intérêts de chaque pays, et on voit comment les concilier. C'est tout simple, c'est scientifique. D'une certaine manière, le vieux monde, vous voyez, la vieille société, le monde avec ses égards, ce cérémonial, ses formes, ses symboles, va paraître comme un monde désuet, un monde de la vieille noblesse, des privilèges acquis, de l'entre-soi. Un monde de l'entre-soi où finalement on règle entre complices, finalement, et les affaires. D'où le mot diplomate, qui est un mot plutôt péjoratif à l'origine. Le paradoxe, c'est que d'un sens un peu péjoratif, ce mot va être adopté dans pratiquement toutes les langues. Parce qu'il y avait un manque, finalement. Et c'est un mot qui n'a pas de couleur, qui décrit un travail, une fonction, et qui a réussi en cela même, qui a réussi puisqu'il s'est imposé dans toutes les langues du monde.
Et qu'on utilise encore aujourd'hui. On pourrait consacrer l'émission à elle toute seule sur la question, mais nous allons nous arrêter là. Un grand merci, Lucien Belli, pour ses éclairages sur la période. Pour approfondir, je le rappelle, je le disais en introduction, mais vous avez écrit beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Je citais l'art de la paix en Europe. Vous vouliez citer d'autres ressources?
Le premier livre que j'ai fait sur le sujet, qui est un très gros livre, s'appelait « Espions et ambassadeurs ».
Oui. Dans les années 90.
Oui, c'est ma thèse. C'est un livre qui m'est cher.
On mettra toutes les ressources sur la page de l'émission. Un grand merci.
Je vous en prie.
Au revoir.
Merci.
Les podcasts de l'Institut de France.